I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, c'est Gauvin Serres. Vous êtes dans le podcast Échange, qui aborde le tennis, mais pas que.
La première fois que je l'ai vu, il chantait Les Oubliés. Et puis j'ai découvert qu'il aimait le tennis, et même qu'il avait joué. Alors le tennis est devenu une excuse pour le rencontrer. Il raconte les trajets avec son père en voiture pour traverser la Creuse et jouer des tournois. Il raconte les points communs entre la vie d'artiste et celle de joueur qui fait tout pour réaliser un jour son rêve. Il fallait donc un bel écrin pour enregistrer cet échange et le Théâtre de la Renaissance nous a si gentiment accueillis. Merci à lui. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange.
Bonjour Gauvin Serres, on ne se connaît pas bien, mais non. On vous voit ou on se tutoie.
On peut se tutoyer, je pense.
Parfait.
Enfin, moi, ça me va très bien, en tout cas.
Je te remercie grandement, car c'est une première dans l'échange. Un artiste qui y participe. On ne va pas se mentir, le tennis est un peu une excuse pour passer un moment avec toi, ici, au Théâtre de la Renaissance. Mais donc, comme c'est une excuse, je suis obligé d'en parler. D'où vient ta passion et ton amour pour le tennis ?
Le tennis, c'est tout simplement ma toute première passion, en fait. Ça rejoint mon enfance. Dès l'âge de 2-3 ans, j'étais au bord du court avec la petite balle jaune à regarder mon grand frère jouer. Donc forcément, quand on a un grand frère qui joue au tennis, on a envie de l'imiter. Et puis plus tard, je me suis mis aussi à jouer aussi. Et voilà, c'est un sport que j'ai fait avec beaucoup de passion quand j'étais jeune. J'ai grandi dans la Creuse, donc il faut s'imaginer un département où il y a assez peu d'occupations en dehors de la cour de récré. Et du coup, le tennis a occupé une grande partie de mon enfance. Beaucoup de trajets en bagnole avec mon père qui nous amenait vraiment avec beaucoup de passion aussi. C'est-à-dire que fallait faire à chaque fois 30-40 kilomètres pour aller aux entraînements, sans compter les tournois qui étaient parfois à une heure de route. Donc, voilà, une chanson sur mon premier album qui s'appelle « Dans la bagnole de mon père », c'est un peu ça. On écoutait de la musique, du coup, qui est devenue après mon métier et maintenant la passion qui occupe un peu toute ma vie. Mais c'était pour aller jouer au tennis, quoi. Donc, j'en ai pas parlé. Enfin, j'en parle dans la chanson aussi, d'ailleurs, où je dis que ma première guitare, quelque part, c'était une raquette de tennis. Donc, c'est ça le... Ouais, mon premier amour dans la vie, c'était ça. Et j'avais des posters de tennisman dans ma chambre plus que de chanteur, quoi.
C'était ma prochaine question, mais avant de te la poser, est-ce que du coup tu m'autoriseras à mettre un extrait de...
Bien sûr. Dans la bagnole de mon père, on avalait des kilomètres, et puis j'écrivais en hiver, avec la buée sur les fenêtres, et quand ma raquette de tennis devenait la plus belle des guitares, je me la jouais Jimi Hendrix. Je me prenais pour une rockstar.
Ok, il y avait qui sur les murs de ta chambre ? C'était donc plus de joueurs que de chanteurs, mais c'était quel joueur ?
Moi, j'avais une grosse passion pour un joueur argentin qui ne joue plus aujourd'hui, mais qui s'appelait Gastón Gaudio, qui a gagné Roland Garros en 2004. J'aimais beaucoup les Argentins de manière générale. Je sais pas, le jeu sur terre battue. Moi, j'aimais bien jouer sur terre battue aussi. J'étais plutôt un défenseur, quelqu'un qui essaye de pas faire de fautes et qui lâche rien sur le court. Donc, je m'identifiais, je pense, à ce genre de joueur-là. Et puis, lui, j'aimais bien parce qu'il avait une espèce de fougue aussi, un très beau revers. Et il y avait beaucoup de posters de lui. Et puis après, arrivé Rafael Nadal. Et du coup, ça a été un peu mon idole très, très vite. Et encore aujourd'hui, je pense que quelque part, si je devais avoir un seul idole... En comptant même les artistes, je crois qu'ils seraient même au-dessus des chanteurs que j'admire et que j'adore. Déjà parce qu'il y a pas mal de chanteurs que j'admire, que j'ai rencontrés. Donc, ouais. Du coup, ça a un peu ça a brisé un peu ce plafond de verre, mais et j'ai été, je me sens très chanceux d'avoir rencontré des idoles pour moi, et disons que Rafael Nadal, ce serait celui qui est encore au-dessus, parce que je l'ai jamais vu et parce que j'admire énormément à la fois sa carrière et puis le personnage qu'il y a derrière, l'humain qu'il y a et puis ce qu'il représente. Il y a un côté, je le prends comme un modèle dans certains domaines de la vie.
Donc Rafael Nadal au-dessus de Brel, Leprest, Renault.
Après c'est Cabrel. Des domaines différents. Donc non, je pourrais pas dire ça
parce que ce sont tes sources d'inspiration et tes idoles.
Bien sûr. Non, après c'est sûr que si je devais si j'avais le pouvoir de ressusciter quelqu'un et de passer une soirée avec Alain Leprest ou effectivement avec avec Georges Brassens ou avec ou rencontrer quelqu'un qui est encore vivant, je sais pas, Bob Dylan évidemment, Paul McCartney, je serais quand même évidemment je serais un enfant, mais c'est un autre domaine. C'est ça m'est arrivé de pleurer pour le tennis quand il a gagné contre Medvedev. Franchement j'avais rarement eu des émotions comme ça en regardant du sport. Ça m'a rappelé des matchs de foot de l'équipe de France quand ils gagnent la Coupe du Monde, ou des moments comme ça, franchement
toi.
C'était aussi fort.
Génial. McCartney gaucher comme Rafa, donc,
exactement.
Qui étaient donc les chanteurs sur tes murs? C'est les gens que tu viens de citer?
Il y avait pas mal de monde. C'est vrai que je disais qu'il n'y avait pas de chanteurs sur les murs, mais si, il y en avait plein, en fait, parce qu'on allait aussi beaucoup aux concerts. En fait, c'est ça qui était chouette, c'est qu'on n'avait pas peur de faire des kilomètres, d'avaler des bornes avec ma famille. Et mon père est passionné aussi par l'écriture, par la poésie, par la musique, par toute forme de culture, d'art en général. Donc, c'est vrai que la musique avait une grande importance aussi. Et dès l'âge de 6-7 ans, on allait au concert. J'étais souvent le plus petit pendant les concerts. J'étais le môme qui allait demander l'autographe à la fin. Où le chanteur est un peu étonné de voir quelque part un enfant de cet âge-là à ce concert-là, qui est souvent des chansons pour adultes, avec du fond et tout ça. Donc je comprenais pas forcément les paroles et tout ça, mais j'étais quand même hypnotisé par le moment du concert, par le guitariste, par... le chanteur comme ça qui prend énormément de place et qui prend la lumière, qui surplombe un peu les gens de la scène. Et donc j'avais les posters, il y avait Renaud, je me souviens, dans la chambre de mon frère, celui qui jouait au tennis, Amaury. Il y avait Hubert Félix Thiéfen aussi, qu'on a toujours beaucoup suivi. Moi j'ai été assez vite...
Un petit point commun avec le tennis, Hubert Félix Thiéfen... le beau-fils de Nicolas Mahut s'appelle Thiéfen parce que sa mère... était fan de Thiéfen.
D'accord. Voilà. Ah, incroyable. Ah ben, je ne savais pas ça.
tout revient au tennis.
Ben ouais, parce qu'il y a un truc...
Il y a un truc de passion.
Ouais, il y a un truc de passion, c'est ça, complètement.
Et ton père, j'ai l'impression, a été cette... Moi aussi, ça a été le cas avec le tennis, sur la musique. C'est plutôt ma mère qui m'a fait découvrir du Jean Ferrat, du Brassens, des choses comme ça. Mais on sent le père, pareil, qui, moi, faisait des kilomètres et des kilomètres.
Bah ouais, très présent, très concerné par tout ça. Parce que quand même, fallait être motivé, quoi, pour se taper à chaque fois 80 bornes pour aller voir un concert. Souvent, c'était en plus de la découverte. C'est-à-dire, c'était pas des grosses têtes d'affiches qu'on allait voir, c'était de la chanson, c'était un plus au moment aussi où il y avait un peu tous les groupes qui décollaient, les Ocs de Barbac et tout ça, La Rue qui est à nous. Et puis après, il y avait toute cette phase chanson française. On parlait de Vincent Delerme tout à l'heure. J'ai vu sa toute première tournée en piano-voix. C'était un peu un ovni aussi quand il a débarqué. Je me souviens de Benabar aussi à Tanor à Montluçon. Voilà, c'est des concerts un peu marquants pour moi à cet âge-là où je découvre... tout un pan de la musique qui est en train d'exploser un peu en France et où moi j'arrive à un moment où je suis je pense que c'est les premiers concerts, forcément ça marque énormément, quoi. Ça te marque toute ta vie. Aujourd'hui quand je vois un enfant qui me dit c'est mon tout premier concert, je me dis j'espère qu'il s'en souviendra toute sa vie, parce qu'il y a rien de plus touchant. C'est ça, c'est un peu les premières amours, les premiers coups de cœur, quoi.
T'as parlé de tes idoles tennis, musique, t'as cité Renaud dont tu as fait les premières parties. J'ai vu, je crois qu'il n'y a pas longtemps, tu l'as recroisé.
On se voit assez souvent en ce moment. Et c'est assez,
ça fait quoi de rencontrer et de partager des moments privilégiés avec ses idoles?
Bah justement, je me sens vraiment pour le coup extrêmement privilégié parce que je mesure à quel point les gens l'aiment en fait de le côtoyer, de voir aussi la réaction des gens quand ils le croisent dans un café, dans la rue. Voilà, il y a tellement d'amour pour ce chanteur-là chez beaucoup de gens que c'est une relation, ouais, c'est... Bah, souvent, je dis que c'est un peu mon parrain dans ce métier-là parce que c'est le premier à avoir cru, enfin, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier avec Trio aussi, qui m'avait embarqué en première partie avec eux, qui sont un peu mes grands frères, du coup. Mais lui, c'est vraiment mon parrain dans le sens où il est contre vents et marées, il s'est battu pour qu'on soit en première partie alors que plein de gens voulaient placer d'autres artistes. Moi, j'étais totalement inconnu à ce moment-là. Et lui, voilà, il a cru en mes chansons et voilà, c'est quelqu'un aussi qui fait les choses à 3000%. Donc, comme il avait envie de me donner un coup de pouce, bah, c'est lui qui m'a amené sur ma première télé. Au début, on devait faire que les premières parties au Zénith à Paris. Et puis finalement, même avant qu'on fasse la première date, il nous disait ouais, « je pense déjà à la suite » et tout ça. Donc, c'était... ouais, il y a une vraie relation d'amitié qui s'est construite au fil du temps. Et puis, l'histoire, elle est dingue, quoi. Moi, je suis dans un resto asiatique et j'ai pas de réseau. Donc, c'est ma compagne qui reçoit un coup de fil en lui disant « il faut absolument que Gauvin réponde à ce coup de fil parce que c'est très important ». Et je sors dans la rue et puis là, allô, c'est Renaud, le chanteur. Donc, c'était assez surréaliste comme scène. J'étais tellement dans un état second que je me souviens à peine de la conversation, tellement j'étais tremblotant. Juste de l'avoir au bout du fil. Donc, imagine après, quand je le rencontre, de jouer des chansons devant lui. Et puis, voilà, après tout ce qui s'est passé, c'est la personne à qui j'envoie l'album en premier quand il sort. Et puis, voilà, il a été tellement généreux avec moi, franchement. On a entendu...
On sent de l'émotion.
Ouais, beaucoup d'émotion, parce qu'une relation comme ça, je ne l'attendais pas. Elle m'est tombée dessus. Et aujourd'hui encore, il est hyper touchant, quoi. Et voilà, là, on a fêté son anniversaire il y a quelques jours et c'était très touchant de le passer à ses côtés et de voir qu'il va bien, de voir qu'il continue de faire des choses. C'est surtout ça, je suis content de le savoir en bonne santé. Il y a eu beaucoup de choses, de rumeurs qui ont été dites sur lui, mais il est toujours là. Et puis voilà, il a marqué la chanson, l'histoire de la chanson française pour toujours. Donc voilà, c'est un immense artiste pour moi et maintenant, c'est devenu un ami. Et voilà.
Tu aimes Renaud ? Tu fais ses premières parties, c'est devenu un ami. Ton film préféré, c'est Amélie Poulain.
Ouais.
Et qui est-ce qui réalise le clip de la chanson Pourvu ? Ouais. C'est Jean-Pierre Jeunet.
C'est vrai que je dois avoir une bonne étoile
quelque
part. C'est
quand même incroyable.
Ouais, c'est vrai que... Ouais, puis là aussi, l'histoire, elle est assez folle parce que... Bah déjà, moi, la maison de disques m'avait demandé un petit peu, voilà, c'était pour la chanson Pourvu, donc qu'est-ce que ce serait ton rêve de réalisateur, quoi. Donc moi, évidemment, je leur dis, bah, je suis fan de Jean-Pierre Jeunet. Il y a un clin d'œil en plus à Amélie Poulain dans la chanson. Donc moi, mon rêve, ça serait que ce soit lui qui réalise mon premier clip, quoi. Mais évidemment, j'y croyais pas une seule demi-seconde et j'aurais jamais parié là-dessus. Et puis finalement, Audrey, qui était la personne en charge de trouver la personne qui réalise, a vraiment remué ciel et terre pour avoir son contact. Elle a fini par lui proposer. Il a dit non tout de suite.
OK.
Parce que ça ne l'intéressait pas de faire des clips. Il n'avait même pas écouté la chanson. Il a dit non, je ne veux pas faire de clip. Je suis en train de travailler. Je travaille un long métrage en ce moment. Laissez tomber, ce n'est pas pour moi. Et puis, elle a vraiment insisté. Et puis, il a fini par écouter la chanson. Il a vu le clin d'œil. Ouais. Et puis, il a commencé à avoir des idées de plans, de réalisation. Et il s'est laissé prendre au jeu, il a fini par dire oui. Et puis pareil, ça a été une super rencontre humaine, en fait, au-delà du clip de mes rêves un peu qu'il a fait. C'est ce qui se passe derrière, de rencontrer toute son équipe de cinéma, de voir quel œil il avait sur ma chanson. Et puis après, on est restés amis, pareil, au fil des années. Voilà, on se voit assez régulièrement aussi. Pareil, enfin, c'est quelqu'un qui a marqué le cinéma français, qui a une patte, une authenticité incroyable, et puis pour moi, c'est un poète aussi, ce gars-là. C'est comme on en rencontre plus beaucoup. C'est vraiment un mec qui a une sensibilité de dingue, qui est resté un enfant aussi. Il y a ce point commun avec Renaud, je pense. C'est toujours des grands enfants et qui ont une part de rêve en eux qui est très très grande et une hypersensibilité qui est au service de la poésie et qui, moi, me bouleverse quand je regarde ce qu'ils font tous les deux, quoi.
D'ailleurs, j'encourage ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu le clip, même s'il a été très vu, d'aller le revoir ou le voir et de pouvoir témoigner qu'effectivement, c'est resté un grand enfant parce qu'on sent qu'il s'amuse à l'intérieur.
Ah oui.
Et que, y a son univers aussi. C'est ça qui est fantantastique pour cette chanson où, en gros, tu imagines la femme idéale que tu rencontrerais.
C'est ça, on se dit avant une rencontre,
exactement.
Etc.
Et c'est vrai qu'en plus, il y a Daroussin,
il y a Gérard Darmon qui est
à la fin.
Qui est en pantin
exactement,
à la fin, qui a accepté.
Magnifique. Donc voilà, je vous encourage à aller le revoir. Le rêve, quand on est un jeune joueur de tennis en France, c'est de jouer Roland-Garros.
Bien sûr.
Est-ce que toi, ça a été aussi un de tes rêves? Tu as été jusqu'à 5-6, je crois.
Ouais,
ça.
Bah, j'ai participé au championnat de France, minime, 15-16 ans.
15-16 ans.
Donc à Roland-Garros, ouais, j'ai joué contre Maxime Quinquennot.
Je me souviens. C'est un gaucher.
Un gaucher, ouais.
Qui était de Poitou-Charentes.
Exactement. Qui jouait hyper bien, ouais, très intelligent sur le terrain, avec un beau toucher et tout ça. Donc moi, je suis de la génération aussi de Benoît Paire, ouais. 1989. Je l'ai joué aussi sur Moquette, à Bois-Guillaume, je me souviens, aux Enfants de la Terre.
Bien sûr.
Le tournoi d'Yannick Noah,
exactement.
Tout ça.
Exactement.
Donc ça, c'est des super souvenirs d'enfance, ouais. C'est... les premiers sentiments de liberté où tu pars chez tes parents,
exact.
Où tu pars en tournoi avec les copains et je retrouve un peu ça maintenant en tournée. Alors je suis adulte, mais il y a ce sentiment-là, ouais, d'être un peu en espèce de colonie, mais en même temps on est un peu dans le travail aussi. Quand on jouait au tennis, c'était pour gagner, donc il y avait une rigueur et tout ça quand t'es gamin. Et là c'est pareil, les concerts, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de la scène et qui sont des moments très forts. Presque de famille, quelque part, qu'on entretient avec des gens avec qui on est toute l'année.
Ouais.
Et en même temps, on est dans le travail, donc il faut aussi assurer, il faut que le concert se passe bien, que les gens soient heureux en sortant. Et... Donc voilà, mon rêve, c'était évidemment de jouer Roland-Garros quand j'étais petit. et voilà, les premiers souvenirs, c'est de regarder Roland-Garros à la télé, en sortant de l'école primaire, du collège, de prendre le goûter, et puis de ces moments-là, ils sont tellement précieux. Et puis
t'as révisé le bac aussi en regardant
Roland.
Voilà,
ce que j'allais dire, c'est que ça correspond aussi à une période tellement c'est une de mes périodes préférées de l'année aussi, les premiers beaux jours, on a envie de sortir, on a envie d'être dehors en terrasse. Bon, j'étais pas trop en terrasse quand j'étais en Creuse mais aujourd'hui beaucoup à Paris. Mais ouais, j'ai révisé, évidemment, j'ai fait semblant de réviser beaucoup devant Roland Garros, et après d'y jouer, c'était un rêve et je suis très heureux de l'avoir fait. J'ai une bonne anecdote aussi sur Roland-Garros. C'est que... Donc ça, c'était un peu plus tard. J'avais arrêté le tennis, du coup, parce que...
T'as arrêté à quel âge?
En fait, j'ai arrêté quand je suis parti à Paris pour mes études. Donc, à la fin du lycée, j'avais...
Très bien.
Je suis parti à 16 ans et demi, 17 ans à Paris pour faire une prépa scientifique. Et donc là, je quitte ma famille. Je me retrouve dans la capitale. Donc, il faut imaginer déjà le passage de la Creuse à Paris, qui est quand même un...
Tu montes à Paris.
Voilà, je monte à Paris, exactement. J'ai la chance d'avoir mon frère quand même qui est déjà là, donc qui m'amène une petite stabilité. Et y a mon meilleur pote aussi qui monte avec moi, qui n'est pas dans la même prépa, mais du coup, on se retrouve assez souvent tous les deux, Florent. Et on joue de temps en temps sur les cours du Jardin du Luxembourg.
Ouais, magnifique.
Mais on n'a pas le temps de faire des matchs, c'est vraiment pour décompresser, parce qu'on est vraiment dans les études, quoi. Il y a vraiment une... Ouais, on est à fond là-dedans. Quand t'es en prépa, faut quand même énormément travailler pour espérer décrocher le concours. Et justement, notre entraîneur de l'époque, OTC Guéry, qui s'appelle David Barr, lui jouait les championnats de France vétérans à Roland-Garros.
Okay.
Donc c'est un peu après le tournoi, il me semble.
Exact, c'est la première partie de... Je crois que c'est fin juin, début juillet.
Voilà, c'est ça, c'est fin juin, début juillet. Et donc, il n'y a plus grand monde dans le stade à ce moment-là. Et on est allé jouer avec lui, du coup, sur un court annexe pour l'entraîner avant son match. Et en y allant, on passe devant le central de Roland. Et là, on voit qu'il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne dans le stade. Et nous, on est habillés, tu vois.
Pour jouer
On était arrivés avec des affaires dans le sac. Mais on est habillés, tu vois, chaussures de ville, jeans et tout ça. Et là, on passe devant, on se regarde et on se dit, mais il faut absolument qu'on aille taper au moins une balle sur le central, quoi. Et donc, on va sur le bord du cours. Il y avait vraiment personne. Il y avait juste un jardinier, je crois, qui était en train d'arroser les plantes. Et donc, on se change en vitesse, hyper vite. On prend les raquettes et puis on commence à jouer sur le central. Et puis, ce qui m'a marqué, c'était la résonance qu'il y avait sur le cours. Le fait que tu tapes un coup droit et t'as l'impression d'être un joueur pro parce qu'il y a une énorme résonance, un écho de dingue. Et puis, on commence à jouer 5 minutes, 10 minutes et tout ça. Et là, il y a des enfants qui viennent, je pense que c'était des enfants de l'école de tennis de province qui venaient visiter le cours et qui nous applaudissaient comme si on était, je sais pas, comme si on faisait partie du CNE ou de quelque chose. Donc, et voilà, nous, on était transcendés. Je pense qu'on n'a jamais aussi bien joué que ce jour-là. Et puis là, arrive un moment quand même où il y a un vigile qui arrive et puis qui nous dit excusez-moi, mais vous êtes qui là, tous les deux là? Vous êtes cru où? Vous êtes cru dans un petit cours de je sais pas quoi, dans un petit club, mais vous êtes sur le central de Roland-Garros, alors vous allez dégager plus vite que ça. Et donc on a pris nos affaires, on est parti en courant, mais ça reste un de mes plus beaux souvenirs de mes 17-18 ans, quoi.
L'artiste que tu dois être sensible à ça. Tu parlais d'acoustique. C'est vrai que le tennis, il y a la beauté du visuel, mais c'est aussi des sons. Il y a l'acoustique d'un court Philippe Châtrier, il y a les bruits des glissades de Roland-Garros, il y a le public, le bruit de la frappe, le bruit des joueurs.
Il y a un ramasseur. C'est vrai.
T'es sensible à ça?
C'est vrai que le son... Enfin, moi, ce qui m'a marqué quand j'étais vraiment gamin, c'est quand t'arrivais, même sur un tout petit court, quoi, un petit court, je sais pas, sur le court 14, au fond de Roland-Garros, quand t'es vraiment près du court, le son de la raquette... Quand les mecs jouent, tu te prends une tarte, mais t'as l'impression que ça, que c'est tellement pur, que c'est tellement facile. Et puis la vitesse où ça part, et puis l'impression de fluidité, je trouve, dans le jeu d'un pro, c'est ça qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin. Et puis c'est vrai que maintenant, quand je viens regarder des matchs, on y va évidemment pour les matchs, mais l'atmosphère qu'il y a autour, c'est quelque chose de... C'est ce qui fait vibrer les gens. Je pense que c'est pour ça aussi que les gens payent une place, quoi. C'est pour tous les à côté. C'est pour les gamins qui crient le nom de leur idole avec une voix hyper aiguë, éraillée à la fin. C'est l'arbitre qui demande d'arrêter de parler. C'est toutes ces choses-là. Et puis voilà, un match de tennis, c'est tellement aussi un espèce de scénario parfois hollywoodien, quoi. Il peut se passer... On sait qu'il peut tout se passer dans un match de tennis. On l'a vu encore plein de fois récemment. Et je crois que c'est aussi pour ça que ce sport est aussi beau. C'est que les retournements de situation, il y en a très souvent. Et le mental est tellement important dans ce sport que c'est ça qui rend les choses belles. Ça rend aussi le côté humain, je trouve, de tous ces idoles-là. On sait qu'ils peuvent quand même avoir aussi des failles. Même Nadal, même Djokovic peuvent avoir des moments où ils sont un peu plus faibles. Et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est aussi pour ça qu'on aime aussi parfois des artistes, c'est que dans leurs chansons, ils nous prouvent aussi qu'ils sont comme nous, quelque part. Et je crois que c'est pour ça qu'on les aime, et c'est vrai que c'est tout cet à côté, ce côté... pour moi, il y a un côté artistique dans le tennis, beaucoup Federer, le côté c'est un artiste, ou Richard Gasquet au début, c'était le Mozart, c'est pas pour rien qu'il y a ces termes-là et que je ressens aussi ces deux passions. Je pense qu'il y a beaucoup de liens très forts et c'est vrai que j'en parle de temps en temps avec d'autres artistes et le tennis est quand même souvent important, je trouve, chez les artistes.
On parlait du rêve de jouer à Roland-Garros. Quand tu fais de la musique, tu te dis un jour je jouerai sur cette scène-là.
Ouais.
Et c'était laquelle ?
Je pense que la première qui me vient, c'est l'Olympia. Je pense que c'est tellement dans l'inconscient collectif, la symbolique des lettres rouges, quand t'en parles à tes parents. Pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce métier-là, si tu leur dis l'Olympia, ils connaissent, ils savent que c'est une référence, ils savent que Johnny Hallyday a joué Edith Piaf, les Beatles ont joué là.
On l'a vu dans des films.
Voilà. C'est la scène incontournable, les lettres rouges sur le fronton.
Sur un grand boulevard parisien.
Voilà, les sièges rouges. Donc ouais, ça parle, même aux étrangers, en fait, ça parle. Si tu dis, t'as joué à l'Olympia, ils te disent, waouh, t'as joué. Ouais. Donc, euh, Donc ouais, c'était ça, je pense, le... Mais en fait, c'est... Enfin, je te dis, c'était ça peut-être mon rêve, mais en fait, j'en rêvais même pas parce que pour moi, c'était inaccessible. Quand j'ai commencé la musique, quand j'ai commencé à écrire des chansons, le fait que je vienne pas du tout d'une famille d'artistes, que je sois un inconnu là-dedans, que je savais même pas comment on pouvait en vivre, ce que c'est des droits d'auteur, ce que c'est des cachets d'intermittents, enfin, c'était des choses très étrangères pour moi. Donc le rêve, c'était... au tout début, c'était d'écrire des chansons, de pouvoir les jouer devant des gens sur des scènes, essayer d'émouvoir les gens. Et puis, vraiment, le rêve absolu, ça serait juste que ce soit mon métier, quoi. Et puis après, bah, plus le temps passe, plus il se passe de jolies choses, plus les rêves commencent à...
devenir des objectifs.
Ouais, voilà, à se former, parce qu'une fois que t'as accompli un rêve, t'as envie d'en avoir un autre. De toute façon, c'est ça qui nous... C'est des moteurs à chaque fois.
Bien sûr.
Donc voilà, il y a eu des petites étapes. Après, il y a eu La Cigale. Je me suis dit, oh, La Cigale, c'est tellement beau. J'ai vu des concerts magnifiques là-bas. Ça serait génial de jouer un jour là-bas. Et puis, une fois que tu t'as rempli La Cigale, tu te dis, bon, bah là, la prochaine fois, c'est l'Olympia, quoi.
Mais
c'est...
alors, qu'est-ce qui se passe quand ça arrive?
Ben, je pense que le premier truc qui me vient, c'est que j'ai du mal à réaliser. J'ai du mal à... Puis, c'est tellement éphémère, le moment du... En fait, cette journée-là, la journée où tu joues à La Cigale ou à l'Olympia, ça passe tellement vite entre le moment où tu arrives, tu fais les balances, t'es ultra stressé, tu dois gérer ta famille qui est là aussi, tu répètes, il y a tous les gens avec qui tu travailles qui sont là. Donc, c'est une journée qui passe vraiment à 3000 à l'heure et en même temps, il faut être très concentré parce que tu dois pas louper le moment où tu montes sur scène et tu dois pas passer à côté en fait de ton concert quoi. Et c'était ça qui me terrorisait quoi. C'est comme quand c'est pour ça qu'il y a un lien aussi où 30 secondes avant de monter sur scène, ça me rappelait justement l'adrénaline de avant de jouer un match important que tu as l'impression d'avoir déjà joué dans ta tête parfois la nuit, le matin et puis quand tu l'as trop joué dans ta tête, tu passes à côté quoi, tu sors du terrain et tu es là mais je suis passé à côté. Et ça arrive à plein de monde. Et dans la musique, c'est pareil. Il faut être dans le moment présent. Pour transmettre de l'émotion, il faut arriver à la revivre aussi et à se souvenir pourquoi tu chantes cette chanson-là et être en osmose avec les gens. Essayer de pas mettre trop de barrières entre les gens et toi. Et voilà, c'est profiter de l'instant présent. C'était vraiment super dur. Mais j'en garde des souvenirs indélébiles, quoi, forcément. Je me sens très chanceux en fait d'avoir pu vivre des rêves que j'avais quand j'étais haut comme trois pommes. Il y en a pas beaucoup qui se lèvent le matin pour aller accomplir leurs rêves quoi. Donc voilà, ça j'essaye de me souvenir que en fait je suis un ultra privilégié de vivre de ma passion et puis d'avoir aussi une chance c'est que les gens veuillent bien payer un ticket pour venir écouter des chansons que j'ai écrites tout seul dans ma petite chambre et puis qu'on partage ce moment-là ensemble, essayer de les faire rêver, de les faire voyager pendant une heure et demie, deux heures. C'est quand même un des plus beaux métiers du monde, quoi.
T'aurais pu écrire l'interview parce que je me suis toujours dit quelque chose. Je me disais, OK, c'est quoi l'émotion la plus forte ? C'est de gagner un grand match à Roland-Garros sur le cours Philippe Châtrier, ou c'est de jouer la première note d'une des chansons qu'on a écrite tout seul dans sa chambre. On joue la première note, et là, on comprend tout automatiquement que tout le public la connaît et la chante avec soi.
Je pense que c'est assez similaire. Et en fait, il y a des choses que j'ai ressenties. Alors, j'ai pas eu...
T'as pas gagné Roland Garros encore,
j'ai pas été assez haut, on va dire, dans le sport professionnel pour ressentir ces choses-là. Mais je pense que c'est des... En fait, ce que parfois j'ai ressenti sur scène, je l'ai jamais ressenti ailleurs. Et quand on me demande en interview qu'est-ce que ça vous fait, c'est impossible à décrire.
Bien sûr.
Parce que si on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est.
On n'a pas de point de comparaison.
Voilà, et c'est hyper dur c'est dur de mettre des mots en fait là-dessus. Et d'ailleurs, quand on lit les interviews de grands champions, ils le disent. J'ai pas les mots. Je sais pas comment vous dire parce que c'est indescriptible quoi, tout simplement. Et c'est vrai quand je sais pas. Je pense à des moments. de jouer au Zénith et de voir les gens chanter Les Oubliés, des enfants au premier rang qui sont là, ou, qui ont 7-8 ans, et puis les voir avec des étoiles dans les yeux chanter ça, c'est vrai que ça m'a vraiment bouleversé. Enfin, même là d'en parler, ça m'a des frissons sur les bras. Ou quand Renaud m'avait dit à mes parents devant moi qu'il aurait aimé écrire une chanson que j'avais écrite, ça m'a... Voilà, c'est des choses qui dépassent... Ouais, qui dépassent tout ce que j'aurais pu rêver, en fait. Donc, c'est très, 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 très fort en termes de, d'émotion. Mais c'est sur scène, ouais, je pense que tout se passe. Et parfois, il y a une magie aussi d'un instant dans la musique. Parfois aussi, on a l'impression d'être en osmose totalement entre les musiciens, les lumières, le texte, les gens, le silence qu'il peut y avoir aussi dans une salle, dans une chanson plus émouvante, etc. Et voilà, ça, c'est des choses, effectivement, qui dépassent un peu tout le reste. Et en fait, c'est pour ça qu'on a envie de remonter sur scène le lendemain et qu'on a envie de réécrire des jolies chansons, si possible, pour revivre tout ça, parce qu'il y a un côté... Bah, c'est une drogue, hein, de toute façon, de voilà, cette adrénaline-là. Et je pense que les champions qui jouent dans des grands stades, c'est... voilà, ils vivent que pour ça aussi, quoi, pour jouer sur le Philippe Châtrier avec le public derrière qui... Être mené, je sais pas, au cinquième et puis essayer de renverser le match, ça doit être, doit être tellement beau, quoi.
Il y a cette notion de solitude, je pense aussi, qui peut être où on peut comparer. C'est-à-dire que le joueur de tennis est, par définition, seul sur le terrain. Il doit être seul avec lui-même, dans sa tête, il doit performer seul. Alors, bien sûr, tu es accompagné de musiciens, mais ça dépend de toi.
Ouais, bien sûr.
Ça dépend de toi, c'est toi qui es devant, c'est toi qui fais la relation avec le public. Comment toi, est-ce que tu aimes déjà cette solitude? Parce que moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien.
Ouais, bien sûr.
Quand je jouais. Hein.
Bien sûr, de toute façon, il y a une vraie part de, une vraie part solitaire dans ce métier-là, évidemment. Et puis même toute la phase de l'écriture, de la création, elle est quand même... même si après, je vais travailler avec d'autres gens en studio, etc. Mais quand même, j'ai l'impression que souvent, ça doit partir de moi, ça doit partir de ouais, de quelque chose qui est à l'intérieur et essayer de le faire sortir avec le plus joliment possible. Et ouais, il y a énormément de moments où je me retrouve seul avec moi-même, mais c'est des moments que j'adore. Ouais. Ça va être le moment 15 secondes avant de monter sur scène. Il y a des gens autour, mais quelque part, je suis un peu tout seul dans ma bulle. Les musiciens sont déjà un peu sur scène et puis je rentre un peu après. On est dans le noir, donc là, il y a un truc de... ouais, j'essaye justement de, bah de, ouais, de me souvenir tout ce que je dois faire et tout ça. Il y a un côté un peu mécanique aussi, rassurant, comme je sais pas, comme quand Rafa remet ses bouteilles et tout ça. On a plein de rituels comme ça avant de monter sur scène, les accolades. On joue toujours le même morceau avec Martial dans les loges. Moi, je fais un peu des sauts de cabri comme ça avant de monter pour être tout de suite dedans.
Je t'échauffe, quoi.
Voilà, je m'échauffe un peu. Et puis, voilà, c'est des petits moments qui sont super importants. Et puis, il y a aussi le moment juste après le concert, vraiment en sortie de scène, où là, je me retrouve effectivement assez souvent tout seul. Et qu'il y a un moment, on respire, on est soulagé, on est content d'avoir donné tout ce que j'avais à donner, d'avoir vu les gens heureux. Quand on les salue à la fin, et puis d'avoir le sentiment, ouais, quelque part du devoir accompli, quoi, d'avoir réussi à donner le plus possible. Et puis après, il y a ce moment-là où tout redescend, qui dure, je sais pas, 2-3 minutes, où souvent j'ouvre une bière parce que j'ai besoin de boire parce que c'était un torrent d'émotions. Et puis après, voilà, on retrouve les gens, mais c'est une espèce de soupape qui est hyper importante et qui est ouais, qui est un moment que j'aime beaucoup aussi. Et puis parfois il peut y avoir ce moment-là à l'hôtel aussi, où on sort d'un moment de dingue, d'euphorie avec plein de gens, et puis paf, on se retrouve à l'hôtel tout seul
dans sa chambre.
J'arrive pas à dormir parce que voilà, je suis encore dans le moment concert. Je regarde une connerie à la télé ou je vais sur internet, et là tu te dis putain, je me sens vraiment tout seul, quoi. et en même temps, c'est quand même des moments aussi ouais, que j'échangerais pas. Alors, je vis plus trop ces moments-là, parce qu'en ce moment, on est en tourbus, donc on part tout de suite sur le concert d'après, mais Et ça m'est arrivé sur des tournées, ces moments-là. Et quand même, je trouve que c'est des belles images, c'est des belles photographies quand même. Je pense que
on a besoin. Tu te fais des beaux souvenirs.
Ouais, ouais, carrément.
Tu parlais de ce côté mécanique. Juste quelques mots là-dessus. Le joueur de tennis, quand il est sur le terrain, il essaye le moins possible de penser, il essaye le plus possible d'exécuter ce qu'il a travaillé à l'entraînement. Et bien sûr, il y a des émotions qui arrivent, et bien sûr, il y a des moments de match qui sont compliqués. Un concert, c'est la même chose. Est-ce que, ou alors tu as une espèce de fil rouge que tu suis et en fait, tu t'es vraiment dans une zone où tu exécutes ce que tu as préparé et ce que tu as fait?
C'est un petit peu les deux, justement, c'est vraiment un mélange des deux aussi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, je sais que ça dépend vachement des artistes, mais moi, j'aime bien quand le concert est quand même très préparé. Alors, parce qu'il y a un vrai côté un petit peu parfois théâtral dans mes concerts où j'aime bien parler entre les chansons, j'aime bien expliquer, je suis très bavard, je raconte plein de choses. Donc ça, c'est très écrit à l'avance et en même temps, il faut pas que ça paraisse écrit pour les gens. Donc il faut garder une forme de spontanéité aussi. Donc ça, j'aime bien avoir ce fil rouge-là, pouvoir m'appuyer dessus. Et quelque part, si je sais que j'ai bien travaillé avant, il peut rien m'arriver. Mmh. Pour le coup, c'est là la différence, je trouve, avec le sport. C'est que quand on arrive à un concert, on est obligé de gagner et de ressortir vainqueur à la fin si on a bien bossé avant. Parce que les gens, a priori, sont quand même là pour écouter les chansons, sont heureux d'être là. Et voilà, si on est fidèle à ce qu'on a préparé à l'avance, si on est, si on respecte un peu tout ce qu'on a écrit, la générosité et tout ça, les gens vont ressortir avec la banane, quoi. Après, j'aime bien aussi quand il y a une part d'improvisation dans le concert, c'est-à-dire, j'ai un fil rouge, mais il va se passer un truc pendant le concert où on va avoir, un problème technique, ou quelqu'un qui va brailler au fond de la salle, une connerie, je vais avoir envie de rebondir parce que j'aime bien aussi quand il y a un côté vivant dans les concerts. Et puis, je trouve que c'est les meilleurs moments quand on sent qu'il y a une spontanéité et puis que la salle se sent aussi privilégiée de vivre un moment qu'on a vécu à cet endroit-là, mais pas à un autre endroit. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien assez souvent... renouveler la setlist, jouer des nouveaux morceaux, jouer des chansons inédites et tout ça, ça permet d'avoir des moments inattendus dans les concerts. Et c'est vrai que j'aime bien, je trouve que ça apporte souvent le petit plus, quoi. Même les galères techniques, une guitare qui va pas marcher, ou souvent les gens aiment bien, ou un trou de mémoire, par exemple. Les gens, c'est des choses qu'ils attendent parce que ça apporte un côté justement unique à ce concert-là.
Et t'es du genre à essayer de trouver une parade pour pas que ça se voit, ou alors t'es du genre à dire là on a tout simplement un problème, là j'ai un petit trou de
mémoire. Non, je vais souvent essayer de rebondir, d'enchaîner, d'en rigoler, j'essaye de pas perdre mes moyens. Ouais. C'est vrai que je trouve que ça peut être assez gênant quand un artiste, on voit qu'il a pas assuré sur un petit moment, et puis si tout de suite il perd ses moyens, ça désacralise un peu la chanson, je trouve, et c'est un peu dommage. Faut aussi quand même continuer à nous faire un petit peu rêver. Et c'est pas grave d'avoir un trou de mémoire, c'est pas grave de faire une fausse note, mais on rebondit justement. Et comme sur un cours, c'est pas grave de louper un passing ça de la ligne, on se remet dedans et puis voilà, faut continuer. Non, je pense qu'il faut essayer de réagir et puis de trouver une parade et de transformer un petit défaut en un avantage et en faire un moment particulier du concert, je pense.
Il y avait un coach qui me disait, t'as des points faibles, c'est normal, mais ça doit pas te faire perdre ton match.
Bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est une bonne philosophie parce que on n'est pas des machines.
Exactement.
En fait. Voilà, un joueur de tennis ou un artiste, il y aura forcément des moments où ça va moins bien se passer que ce qu'on aurait imaginé dans la tête, et c'est justement là les moments qui sont importants. C'est effectivement, mais c'est vrai. Mais on a quand même l'avantage je trouve quand même dans la musique, c'est que c'est qu'il y a beaucoup plus, les gens vont beaucoup plus nous pardonner aussi. Dans le sport, les spectateurs sont beaucoup plus dans le jugement, plus rudes, plus on pointe beaucoup du doigt quand un joueur il va perdre en menant facilement, je sais pas, dans un set, etc. On se dit il a craqué, il est mentalement, il est pas assez solide et tout ça. Je trouve ça hyper dur, moi, de juger comme ça des moments où on est un peu moins bien, quoi. Et comme si dans la vie, on n'avait pas des moments tous où on est un peu moins bien, un peu plus fragile. Où, c'est tellement compliqué, je trouve, d'arriver à un niveau comme ça. Quand on parle, je sais pas, des 100 premiers mondiaux, il faut s'imaginer être dans les 100 premiers mondiaux dans son domaine. C'est quand même incroyable, je sais pas. Moi, il y a beaucoup plus de 100 artistes qui vivent de ce métier-là. Heureusement, je sais pas, le mec qui est boulanger, imagine, il est dans les 100 premiers boulangers du monde. C'est quand même incroyable, quoi.
Bien sûr. On
dirait que c'est un génie, le gars. Et dans le sport, c'est vrai je trouve qu'on est un peu rude avec les sportifs, et c'est parfois faudrait peut-être y repenser à ça, je pense, quand on regarde un match de foot ou un match de tennis.
Soyons honnêtes, on est plus souvent moyen que exceptionnel.
Voilà,
c'est justement ça qui fait que c'est très spécial quand ça arrive. Tu parlais de quelques joueurs français, t'en as que tu aimes bien?
Ah ouais, bien sûr.
Lesquels t'aimes bien?
Bien sûr, là, j'ai vu qu'il avait annoncé son forfait, donc je suis un peu dégoûté, mais j'aime beaucoup Gaël Monfils. Ouais. Je trouve que super joueur, spectaculaire, justement généreux aussi. Il y a un côté showman, forcément, que j'adore. Et je trouve qu'il a des coups... Il n'a pas beaucoup de choses à envier aux autres, en fait, je trouve. Mais voilà, toute cette génération-là, je les ai beaucoup vus.
Bien
donc
sûr.
Je les adore. Richard Gasquet, évidemment, c'est tellement magnifique. Et puis je trouve que là, plus le temps passe, plus j'admire aussi sa passion pour le jeu.
D'accord.
J'aime bien les gens passionnés, et lui, ça vraiment, ça transpire le fait qu'il aime le tennis, quoi.
C'est exceptionnel,
et ça, c'est magnifique. Il est pas forcément aujourd'hui dans les 20 premiers mondiaux, mais il continue à jouer. Hier, il a battu quand même Medvedev,
exact.
C'est quand même il continue de faire son bonhomme de chemin. Je trouve ça vraiment admirable. Gilles Simon, j'adore pour le côté
analytique,
un peu scientifique de son jeu, que j'aime bien aussi, parce que je viens de là, des mathématiques.
C'est vrai.
Donc
dingue d'ailleurs, ça. On aurait pu ne pas dire que tu venais d'un côté scientifique.
Toi. Ouais, c'est vrai, mais c'est une vraie part de moi pour le coup, parce que quand j'ai mon père, c'est vrai, a beaucoup influencé ça aussi. C'est qu'il était prof de maths, donc forcément, j'avais un peu sa tête au-dessus de mon épaule pendant les exercices de maths. Donc c'est une vraie partie de moi, et je pense que Gilles Simon devait pas être mauvais aussi dans les matières scientifiques. Et puis Joe, j'adadore aussi, parce que...
Qui va faire ses adieux cette année.
Ouais, ça va être super émouvant. Ça va être super émouvant. Et j'aime beaucoup Benoît Paire aussi, pour aussi le côté humain qui dégage... Je sais que ça peut être vraiment rageant quand on regarde un match, et c'est vrai, des fois on a envie de... Et en même temps, faut accepter aussi qu'il ait une part de génie dans son jeu, mais que ça compense aussi avec plein de petites choses qui sont difficiles à maîtriser, des travers parfois. Et j'étais à mon très petit niveau, mais très colérique aussi sur un terrain. J'ai cassé plein de raquettes, j'ai insulté des arbitres, et je sais ce que c'est de perdre ses nerfs, parce que ce jeu est tellement frustrant que je pardonne tous ces écarts et tout ça. Et puis le fait de... Ouais, je trouve qu'il a un toucher de balle tellement... Je pense que c'est lui qui a mis les plus beaux points de ces dernières années, franchement, des volets rétro.
Regarde les best-of des points de l'ATP sur YouTube, il y en a beaucoup.
Quelque part, rien que pour ça, j'ai de l'admiration pour lui. Là où je suis moins fan, par exemple, d'un Kyrgios, je trouve qu'il dépasse un peu plus les bords, mais avec les gens, ça me dérange un peu plus. Parce que je trouve qu'il faut, par ailleurs, quand même respecter le mec qui a payé souvent cher en plus une place, qui se sent... c'est un peu la sortie parfois de son année avec
Bien
ses
sûr.
Enfants, avec son truc. Et c'est là où je rejoins Rafa, c'est que pour moi, et c'est pareil. Et j'y pense tous les jours quand je monte sur scène. Il y a des gens qui ont payé pour être là. Quand des fois on me dit « Ouais, tu joues trop longtemps, t'as pas peur que les gens s'en aillent au concert, tu joues 2h10 et tout. » Je pense au mec qui amène ses enfants, sa femme parfois, ses parents, ils viennent à 5, 6, ils ont payé un ticket 30 euros, 40 euros. je me dis, c'est la moindre des choses de quand même de,
d'être généreux,
d'être dans la générosité vraiment au maximum, et on est quand même, c'est quand même nous les chanceux d'être soit sur un court de tennis de ce côté-là de la chaise d'arbitre, et moi d'être de ce côté-là du micro. Donc ça, faut quand même pas l'oublier. C'est pour ça que j'ai de l'admiration pour les grands champions, c'est quand même des gens généreux, je pense, et humbles aussi.
Tu disais j'ai la chance d'avoir réalisé certains de mes rêves. Aujourd'hui, c'est lesquels les rêves qui te restent ou qui sont venus?
Après, on rêve toujours de plus grand, c'est vrai. D'avoir fait l'Olympia, d'avoir fait le Zénith. Aujourd'hui, on se dit, j'aimerais bien un jour faire Bercy, je sais pas. Voilà, c'est vrai que j'ai vu quelques concerts là-bas. J'ai vu TFN, je sais pas, il y a un ou deux ans. J'ai vu les Cowboys Fringants, que j'adore aussi, il y a quelques mois. Et c'est vrai que c'est une salle assez mythique. J'ai vu aussi forcément des matchs de tennis. Le match d'Hugo Gaston l'année dernière, assez incroyable. J'étais là, c'était des belles émotions aussi. Donc, ouais, ça serait par exemple un des rêves. Ça serait, je sais pas. Le premier rêve, ça serait de continuer d'écrire des chansons qui touchent les gens et de les voir chanter au concert, et puis de rentrer un peu dans leur salle de bain, quoi. Voilà, je sais pas, le matin en s'habillant, tu flottes une chanson qui t'a ému, ou alors qu'elle soit utilisée pour des moments importants, je sais pas, un mariage, utiliser ta chanson. Je sais qu'il y en a qui ont utilisé par exemple Pourvu en réécrivant les paroles exprès pour un mariage. Je trouve ça hyper émouvant, ou les oublier pour sauver un service dans un hôpital. Voilà, ça, c'est des choses très fortes et ça fait partie des rêves. Après, ça serait, je ne sais pas, collaborer peut-être avec des artistes aussi que j'aime infiniment.
Ouais.
Voilà.
Ça a déjà marché. Lesquels
non, mais je ne sais pas, peut-être un jour faire une chanson, je sais pas, avec Alain Souchon, avec... ou je sais pas, avec Renaud, avec pas forcément d'ailleurs chanter en duo, mais être dans la création, mais même de partager des moments de création avec eux, d'en discuter, de discuter de chansons. Je sais pas, ça c'est déjà des rêves, quoi, juste de pouvoir côtoyer des gens inspirants. C'est j'essaye souvent de noter dans un petit carnet justement ces moments précieux, de me dire, je sais pas, aujourd'hui j'ai pris le train avec Alain Souchon, on a discuté de voilà, c'est des choses que j'ai eu la chance de vivre, ou de chanter La Corrida avec Francis Cabrel. C'était surréaliste, et ça, c'est en fait c'est des rêves que je soupçonnais pas, mais quand ils arrivent, je me dis waouh, c'est la vie est quand même pas dégueu quand même de temps en temps avec moi, et voilà, j'essaye de me laisser porter un peu par tout ça, et puis de serrer la main à Rafa, ça serait un rêve par exemple aussi, je pense. Là, j'en ai pas d'autres qui me viennent, mais voilà, ça serait déjà de continuer en fait la folle histoire qui m'est tombée dessus il y a 5 ans, et puis après de me laisser porter par les rencontres. Je crois que c'est souvent ça, c'était souvent le fruit du hasard en fait, tout ce qui m'est arrivé. Enfin, c'était, je crois souvent au destin, mais c'est, il y a, voilà, dans le destin il y a une part de hasard, et puis j'essaye de croire à ça et de travailler pour faire en sorte que ça continue.
C'était pas dégueu comme moment pour moi, Gauvin. Pareil.
Pour moi aussi, c'est
merci
très,
beaucoup, très inspirant.
Très émouvant même.
À bientôt peut-être pour un prochain épisode, mais surtout, on va continuer de te suivre. Et merci encore d'avoir été le premier artiste dans l'échange.
Je suis très honoré de ça, et je te félicite pour ces podcasts que j'écoute avec grand plaisir, et je trouve ça hyper important de le faire. Donc, chapeau à toi.
Merci. Un grand merci à Gauvin Cers d'avoir accepté d'être le premier artiste dans Échange. Il y en aura d'autres. J'espère que ça vous a plu d'entendre un discours bien différent. Un immense merci à Morgan Spielmaker, le directeur du Théâtre de la Renaissance, pour son accueil dans un lieu unique. Ce podcast est magnifiquement produit par le studio L'Aude, Adrien Noël au son et Laurent Aquenin à la musique. On se retrouve vite pour un prochain épisode d'Échange, et d'ici là, prenez soin de vous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.